coup, on a mis en place avec le local un workshop qui s'appelle Romain sur la recette, qui est simplement un temps de travail collectif autour de l'échange de savoir. Elle a déjà eu lieu une fois l'année dernière, et là, c'est la deuxième occurrence, on a invité des artistes à proposer des savoirs qu'ils avaient en eux et aussi demander à chacun de participants ce qu'ils pouvaient avoir envie de recevoir. À partir de ça, on a mis en place un agenda qu'on a manipulé selon les territoires disponibilités, où chacun prenait son temps pour écouter l'autre, chacun donnait aux autres, et comme ça on organisait ces temps d'échange qui peuvent se faire tous les jours, donc là on se rend déjà en échange, mais là il y a un peu l'envie que ça soit des vrais temps, que les gens se passent dans la tête à travailler dessus un petit peu plus que 5 minutes, enfin il y a eu quand même des cours, on a réussi un petit peu à poser plus que parler en superficialité des sujets. Et du coup pour ce soir, c'est du coup Julie nous a invité à potentiellement utiliser cet espace pour le workshop. Et au début on se demandait si on voulait faire une présentation de ce qu'on avait fait, et on s'était dit que ça pouvait être un peu niais pour vous qui n'êtes pas venu, parce que vous aurez juste vu des images et des archives et que vous seriez resté très extérieur à ce qui s'est passé. Du coup Pierre qui voulait faire une conférence s'est dit justement que ça pouvait être juste simplement évident de la proposer à un public. Enfin, d'où vers ce temps un public, seulement pour les participants du workshop. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce soir.
Ok. Donc, la parole. On va y aller.
Donc, ça s'appelle Travailler moins pour les premiers.
Qui vient d'une. Du coup, je trouvais cette idée de workshop avec des échanges de savoirs informels, qui est un partage de connaissances gratuit, libre, qui aussi nécessite. Dans la plupart des activités artistiques, et là plus précisément de prendre 10 jours, ce qui n'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a une grosse contrainte de temps économique du fait du montage économique de nos sociétés. Et du coup, ça m'a donné envie de parler de Gortz, qui est un penseur qui a beaucoup pensé à la notion de travail et de libération existentielle du travail. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà lu, où la plupart des jeunes artistes sont dépendants d'un travail économique pour vivre. Ceux qui parviennent à poursuivre leur activité artistique ont dû développer des stratégies individuelles afin de limiter l'impact de ce travail sur leur recherche. Donc ça, c'est ce que je pense qui est commun à tous les membres de ce workshop. Du coup, ce retrait partiel de la vie économique des artistes est relativement bien toléré par la société, qui offre même quelques avantages. Je pense au système de bourse, de résidence, où, comme on le verra, il y a une sorte de stigmatisation de l'oisiveté, notamment à travers le chômage. Et du coup, avec l'aide d'André Gorst, je vais proposer une approche présentant cette volonté d'émancipation comme non seulement légitime, mais aussi extensible à l'ensemble de la population et pas seulement à une petite élite qui a fait ce choix ou qui a les moyens culturels et économiques de s'émanciper ou d'avoir cette recherche. Donc, très brièvement, André Gortz, qui est mort il y a 6 ans, qui a traversé un peu le XXe siècle, il est présenté comme un penseur écologiste fondamental dans le sens où il ne pense pas seulement à la réduction de la consommation et la réduction de l'usage des matières premières, mais qui repense totalement la manière de vivre et la manière de consommer par des aspirations, par une autre manière de créer. Il était proche de Sartre, je pense que c'est important pour comme penseur existentiel. Il a pensé des alternatives économiques, philosophiques, pour libérer l'être humain du travail aliénant et lui permettre de se réaliser existentiellement, artistiquement, amoureusement, etc. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va voir. On ne va pas voir tous les quatre, je vous rassure, mais c'est un petit peu le plan de la présentation qui se propose de traverser en diagonale la pensée de Gortz par rapport à cette notion de libération de temps existentiel pour créer d'autres richesses dans la société. Dont l'outil principal va être qu'est-ce que le travail. Donc c'est pas, on va voir que c'est pas un éloge de l'oisiveté, mais c'est un détournement ou une relecture de la notion de travail. Et aujourd'hui, travail, et on l'entend énormément comme une activité payée. accompli pour le compte d'un tiers qu'on nomme l'employeur, donc qui délivre un salaire et dans lequel on s'implique du coup dans des activités qu'on n'a pas nécessairement choisi, dont on ne choisit pas les modalités, les horaires, et qui est relativement contraignant et qui prend énormément de place dans la vie et qui limite d'autres activités. Donc ça, c'est confondre le travail et l'emploi, et on va voir que le travail est beaucoup plus large. Gortz notamment définit trois types de travail. Donc le travail à but économique, ce que vous lisez. On peut faire des petits zooms, c'est génial. Donc ça, c'est le travail à but économique, aujourd'hui a tendance à recouvrir l'ensemble du travail, de l'imaginaire du travail. Il y a énormément de travail non soumis à un échange marchand, qui est notamment le travail domestique, le travail pour soi, ce que Marx appelait le travail de reproduction, qui est le travail qu'on accomplit non pas en vue d'un échange marchand, mais en vue d'un résultat dont on est soi-même directement le principal destinataire et bénéficiaire, comme cuisiner, nettoyer son corps, sa maison, donc le travail de reproduction à court terme. Si ce travail s'arrête, il n'y a plus de travail économique parce qu'il n'y a plus d'implication dans le travail, ou à plus long terme, comme mettre au monde, élever des enfants. Et ce travail de reproduction est encore un travail encore beaucoup réservé aux femmes, en plus du travail économique. C'est un héritage assez patriarcal de la société. Et la dernière activité, qui est selon moi la plus importante et dans laquelle je place l'art pour des artistes, jeunes artistes qui n'en vivent pas, disons qu'ils n'ont pas de rémunération de ce travail, qui est souvent extrêmement renié par les deux premières, qui sont les activités autonomes que l'on accomplit comme étant une fin en elle-même, librement, sans nécessité. Donc c'est toutes les activités éprouvées comme épanouissante, enrichissante, source de sens et de joie, activité artistique, philosophique, politique, scientifique, relationnelle, éducative, de l'entraide non marchande, des échanges, d'autoproduction. En gros, tout ce qui fait la valeur d'une vie. Et la condition d'existence de ce temps est qu'il ne soit pas trop chichement compté ou qu'il ne représente pas juste des miettes par rapport à l'emprise des deux premières. Donc le salariat a créé, donc le salariat c'est l'échange de temps de travail contre de l'argent, a créé une déconnexion de la nécessité du travail en lui-même, où l'argent gagné permet une forme de satisfaction plus importante que la perte de liberté. Ça c'est dans le meilleur des cas, parfois c'est juste une exigence incontournable, et le salaire devient le but essentiel de l'activité, à tel point que cesse d'être acceptable toute activité qui ne reçoit pas de compensation monétaire. Donc ça, c'est assez dangereux pour le développement de l'activité autonome, qui pour moi est hautement défendable. Et l'argent supplante les autres facteurs pour devenir la seule et l'unique mesure. Comme dit Max Weber, il n'y en a pas toujours été autant, où les ouvriers de la fin du 18e, donc un petit peu avant la révolution industrielle, où le travail était un savoir-faire intuitif intégré dans un rythme de vie ancestral, et nul n'aurait eu l'idée d'intensifier ou de prolonger son effort afin de gagner davantage. L'ouvrier ne se demandait pas combien dois-je gagner pour vivre si je fournis le plus de travail possible, mais combien dois-je travailler pour gagner les 2,50 € que je recevais jusqu'à présent et qui couvraient mes besoins courants. Donc, il y a une destruction de sens du fait d'échanger son temps de travail contre de l'argent, puisqu'on est, ça crée une distance par rapport à l'action qu'on accomplit, où chaque individu encourt le risque de fonctionner comme un rouage sans chercher à comprendre le sens, quand il y en a un, de la tâche partielle, de tout un processus qui l'exécute. Ça va avec la perte d'autonomie dans le travail, du fait des grandes entreprises et de la distance par rapport au processus de fabrication et l'impact que chaque travailleur a dans l'ensemble de ce processus. Le risque, c'est l'uniformisation des comportements. Ou dans des, je parle surtout là des grandes entreprises où le travail est extrêmement réparti et fractionné. Et il y a une perte de la vision globale de la finalité du travail et qui crée des réflexes ou des fonctionnements ou du coup qui exige un esprit de compétition par rapport aux autres, du fait de l'arrivée du chômage aussi, de masse, d'opportunisme et de complaisance à l'égard des supérieurs. Donc une forme de docilité. Et un des grands mots d'ordre de Gortz, un des grands jingles, c'est à force de fabriquer des marchandises, l'ouvrier se met à rêver de marchandises. Ça, c'est des choses qui me parlent assez. Quand on travaille beaucoup, quand on se désapproprie son temps, il y a une sorte de volonté compensatoire de consommation qui fait qu'on compense en achetant et en dépensant son argent pour acheter des marchandises dont on n'a pas réellement besoin. Donc ça, c'est un petit bémol, c'est une sorte de portrait assez sombre du monde économique. Il s'agit surtout des grandes entreprises. Et donc je ne dis pas qu'il puisse y avoir des créativités ou de plaisir dans les travails à but économique. Mais comme celui-ci n'étant pas l'objectif premier, ça nécessite une militance ou un savoir-faire très spécifique qui nous rend indispensable à l'entreprise. Et ce qui reste encore l'exception dans la masse des travailleurs. Un des clés de la présentation va être l'apparition du chômage, donc l'apparition d'une expulsion du monde économique. Donc là, je vous propose un petit passage de Pompidou en 67. C'est un extrait qui vient du film de Gilles Balbast de Le chômage a une histoire. Ça va durer 2-3 minutes.
Dans le passé récent, nous ne connaissions pas le chômage, sauf en période de crise internationale généralisée, parce que nous n'étions pas une société industrielle moderne.
En ce mois de janvier 1967, le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, accorde une interview à la télévision française. La France d'alors ne compte que 250 000 chômeurs, et pourtant le Premier ministre s'inquiète.
Nous sommes devenus une société industrielle moderne. Nous sommes en train surtout de le devenir. À partir de ce moment, le progrès technique fait qu'il y a constamment des industries qui périssent, fait que constamment la mécanisation transforme les usines en des sortes d'immenses laboratoires où il y a beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup moins de machines, beaucoup plus de machines. Nous avons d'autre part des industries qui se concentrent, qui se fusionnent, et elles le font pour améliorer leur productivité, c'est-à-dire pour diminuer le nombre d'emplois par rapport à leur production. Et nous avons enfin les classes nombreuses nées après la guerre qui arrivent sur le marché du travail. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. En permanence, il y aura en France un problème de l'emploi. En permanence, on devra veiller à ce que l'emploi soit assuré aux Français.
La vision de Pompidou était une vision à moyen terme. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui à l'époque et il me disait: ce qui serait intolérable, ce serait 500 000 chômeurs. Nous aurions la révolution à 500 000 chômeurs.
Donc je vous ai essayé aussi l'équivalent du patron du MEDEF de l'époque. On va en reparler après. Donc, ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est, il l'a répété deux fois, nous entrons dans une société industrielle moderne qui situe à ce moment-là l'apparition du chômage de masse. Il a toujours existé, mais pas d'une manière aussi massive, et des 250 000 chômeurs, ce qui représenterait paradis aujourd'hui, ils s'inquiètent beaucoup. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'il décrit le chômage comme un résultat mécanique d'une augmentation de productivité au taux horaire. Disons qu'avec le même temps de travail, l'économie demande de moins en moins de travail pour un volume de production croissante. Donc pour un même volume à produire, on a besoin de moins de travailleurs. La chose intéressante avec le patron du MEDEF, ce que rapporte sur les 500 000 chômeurs, c'est qu'il y a une réelle inquiétude comme une force subversive, le chômage. Ça crée énormément de mécontents, d'expulsés de la société, et ce qui représente un danger pour la stabilité de l'économie. Et juste depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, la solution imaginée, c'est de dire on a besoin de moins de temps de travail pour produire la même chose, donc on va produire plus pour pouvoir consommer plus, et du coup on fait cette jolie petite roue de consommation pour augmenter la croissance. Donc on va augmenter la consommation pour pouvoir augmenter la production, pour pouvoir augmenter l'emploi. Et c'est la solution qu'on a mis en place depuis 40 ans pour essayer d'endiguer le chômage. Donc en 67, la vision du chômeur était vraiment basée comme un changement de fonctionnement de la société. Et ça fait pas mal de décennies qu'on essaye d'endiguer le chômage, et il est monté en flèche jusqu'aux années 2000, c'est un peu stabilisé par la suite. Et du coup, par rapport à cette impossibilité d'endiguer le chômage, on est passé aussi à reconsidérer la vision du chômeur qui devient subversive. Donc il faut un peu stigmatiser les chômeurs, faut renvoyer la culpabilité, il faut transformer cette lecture du chômage non pas comme une évolution de la société et de ses moyens de production, mais il faut stigmatiser les chômeurs, qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas inséré dans la société, qui ne participe pas à la production de richesses, qui est un poids pour la société. La société l'indemnise. Ça l'incite à la paresse. Et ici, il ne s'est pas inséré, c'est par manque de ténacité ou parce qu'il est médiocre. Ça, c'est parce qu'il y a un refus de... Il y a une sorte de valeur travail qui, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Où le travail n'est pas une valeur, c'est la manière dont il est fait qui peut être à la limite une valeur. Donc ça, c'est un petit retour historique où, en Grèce antique, le travail économique visant à produire les biens de première nécessité était un asservissement. Les Grecs, ils avaient un bon rôle parce qu'ils avaient des esclaves et des femmes qui, si on reprend notre clivage, les esclaves s'occupaient de la partie du travail économique. Souvent, les esclaves étaient plus riches que les citoyens grecs. C'était pas de l'esclavage comme la traite des Noirs ou c'était des commerçants. Le travail domestique de reproduction était assuré par les femmes, ce qui laissait les citoyens grecs libres de... Ça donnait à des activités autonomes, principalement, ils sont principalement connus pour la politique, le théâtre, l'invention de la démocratie. Et la réflexion va être, si les Grecs avaient pu, en reprenant des valeurs, la considération du travail des Grecs, est-ce que la technique et la mécanisation ne sont pas un substitut éthique à cette libération, en se passant d'esclaves et de ségrégation des genres, ou d'arriver à cette même libération par la mécanisation. En revenant sur le paradoxe du chômage qu'on vient de voir, où le chômage provient du boulot ancestral de l'humanité qui a su développer des technologies afin de subvenir à ses besoins en diminuant son labeur, en étant de plus en plus sûr, en se protégeant des famines, des accidents, et de reconsidérer le chômage plutôt comme le résultat d'une conquête, qui est l'augmentation de productivité horaire du travail. Et à partir de ça, on va proposer une autre répartition de cette diminution du besoin de travail. Aujourd'hui, on garde la même quantité de travail par personne, sauf que mécaniquement, il y a des gens qui sont expulsés de l'économie et qui apportent d'accès à un revenu. Donc plutôt que d'aller vers une augmentation de la croissance, c'est prendre ce cercle à contresens et de travailler moins. Et en disant que le temps de travail économisé permet de rémunérer celui qui a perdu son emploi en l'employant pour d'autres activités. Il ne s'agit pas de moins travailler, il s'agit soit, soit de répartir le temps de travail économique sur la population, où ce serait travailler moins pour travailler tous, ou ceux qui ne travaillent pas économiquement continuent d'avoir un revenu pour pouvoir créer d'autres richesses qui ne sont pas monnayables. Donc, ce qui implique de répartir le travail producteur de richesses indispensables, la nourriture, le logement, les habits, le chauffage, ce qui est nécessaire à la vie, de collectiviser l'économie de temps liée aux gains de productivité du fait de la robotisation, l'informatisation, l'organisation, ce qui revient à peu près au même de ce qui est dit juste au-dessus, et employer le temps dégagé pour générer des richesses supplémentaires. Il s'agit... Alors ça peut se justifier, de rémunérer les gens qui ont perdu leur emploi économique par la question de à qui appartient ce temps ? À qui appartient le temps dégagé par l'augmentation de productivité ? La réponse aujourd'hui est renvoyée à la question à qui appartient les technologies, les systèmes de production, les robots, logiciels, brevets, processus d'organisation ? Il ne s'agit pas seulement du travail à chaîne, mais de toute une ingénierie de la production, de l'organisation du travail. La réponse est à ceux qui les ont achetés, donc aux investisseurs. Le temps libéré est au profit des propriétaires des technologies. Une autre réponse à cette question d'appartenance de ce gain de temps est de dire que on peut socialiser ce temps, cette économie de temps, en disant que ce temps appartient à l'ensemble des citoyens, en reprenant en considération que si aujourd'hui on arrive, par exemple, à fabriquer un ordinateur, c'est parce que d'autres avant ont découvert des lois physiques, d'autres, à partir de ces lois physiques, ont inventé l'électricité, que l'histoire des technologies est complètement intriquée et tissée dans l'évolution de l'humanité. Et du coup, de dire que le savoir, la formation, toute l'ingénierie accumulée, tout ça, c'est un bien commun. Et les citoyens sont copropriétaires de ces techniques. Donc, grâce à l'efficacité croissante des moyens mis en œuvre, le temps de travail économisé à l'échelle de la société est du temps de travail disponible pour une production additionnelle de richesses. C'est ce qu'on a vu un peu avant, de libérer soit proportionnellement au temps de travail, chacun travaille moins pour avoir plus de temps, et que ça va... Créer des richesses supplémentaires. Et ce qui a la vertu de contrecarrer aujourd'hui des boulots de domestiques qui trouvent leur justification uniquement parce qu'il y a des travailleurs qui prennent en charge la production de richesses et il y a un non-partage de ce travail et du coup ils ont besoin de domestiques. Parce qu'ils n'ont plus le temps d'avoir du travail de reproduction et de domestique. Je prends l'exemple des livreurs de pizza, toiletteurs pour chiens, nounou. Ça, c'est une pub que j'ai vue avant de venir ici dans le métro, qui, je trouve, est assez symptomatique de vouloir régler le problème du chômage en créant une partie de la population qui en sert une autre. Ou, du coup, on propose une aide à domicile, qui coûte 20 euros de l'heure, mais comme c'est déduit, il y a 10 euros de l'heure qui est déduit des impôts, donc c'est un renoncement à une taxation du travail, parce que l'État prend le parti pris qu'il faut réduire le travail, donc il détaxe une partie de l'activité qui n'est pas productrice de richesse, mais qui est simplement une autre répartition du travail. Et parce qu'il y a un refus de répartir le travail qui crée réellement des richesses et qui produit des choses dont on a réellement besoin. Une autre formation de travail non producteur de richesses, c'est celle qui graisse ce rouage de la croissance, consommation, production, emploi, qui sont des boulots comme publicitaires, commerciaux. Je parle même pas de la finance ici, mais qui en soi servent juste à maintenir un système qui n'a pas suffisamment de justification pour s'entretenir de lui-même. Et là-dedans, il y a une perte de production de richesse, puisqu'il y a des gens qui sont payés, c'est souvent les mieux payés, sont mieux payés que ceux qui produisent réellement des besoins vitaux, et qui pourraient produire réellement des choses, au lieu d'aider à faire fonctionner un système qui ne marche pas très bien. Pour ça, il y a des outils. Donc un des gros outils est le revenu de base. Donc le revenu de base, une de ses moutures, est revenu universel inconditionnel suffisant. Donc ça veut dire universel, ça veut dire pour tout le monde. Si on prend à l'échelle nationale, c'est les enfants, les ados, les travailleurs, les retraités. Inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de justifier la recherche d'un emploi. Il est versé à tout le monde sans condition. Et suffisant, ça c'est la partie la plus politique et la plus influente du revenu de base, ça veut dire qu'il s'approche du seuil de pauvreté, il est suffisant pour subvenir aux besoins vitaux d'une personne sans luxe, vraiment le minimum. Donc il peut y avoir le choix de ne pas travailler. Travailler économiquement. Et ce qu'implique, là je vais passer à la citation de Mona Chollet, donc ça implique de reconnaître les liens de profonde interdépendance qui unissent les membres d'une société et qui conditionnent cet épanouissement. C'est même l'un des traits les plus frappants. Il invite à prendre conscience du fait qu'on travaille toujours pour les autres, même si on a l'illusion de travailler pour soi, parce qu'on en retire un salaire. C'est un outil qui a une longue histoire, qui est étudié, qui a commencé vers le début du XXe siècle. C'est un outil qui est étudié par la gauche et la droite. C'est pas la différence près est que est-ce qu'il est inconditionnel, est-ce qu'il est suffisant. C'est la question de son montant et de sa conditionnalité. Il existe le revenu de base, enfin le revenu, la partition de ses revenus, c'est un argument pour justifier de sa faisabilité économique et qu'il existe déjà. Disons que sur 65 millions de Français en 2011, c'est des chiffres INSEE, je me suis amusé à faire un petit calcul, tout le monde a un revenu, on ne peut pas vivre sans revenu. C'est-à-dire que tout le monde peut se nourrir, les enfants à travers leurs parents, mais il y a une répartition du revenu. Et en 2011, il y avait 26 millions de travailleurs avec revenu, en retirant les chômeurs, ceux qui travaillent réellement contre un salaire, qu'ils soient salariés, fonctionnaires ou auto-entrepreneurs, ceux qui tirent réellement un revenu. Donc il y a un transfert de ces 26 millions de personnes avec revenu sur les 65 millions dont ils font partie, ce qui représente 40% de la population, si on fait le prorata. Donc il y a 40% de la population qui a un revenu qui est redistribué sur 100%. À différentes échelles. Au niveau national, dans un État qui répartit, il y a une idée de répartir les revenus par des allocations, parce que l'État reconnaît que, par exemple, allocation familiale, l'État reconnaît déjà l'utilité de faire des enfants pour poursuivre pour garder une population élevée, pour renouveler la population, le RSA. Donc, qui a été créé pour une suite du RMI pour qu'il n'y ait pas d'extrême pauvreté, qu'il y ait une sorte de sas entre zéro revenu ou être travailleur, le temps de retrouver un travail, la retraite, le chômage, les bourses d'études. Au niveau tribal, il s'opère aussi une répartition du revenu, études primaires et secondaires, quand on est un enfant, quand on est parfois étudiant, on touche de l'argent. On touche de l'argent de la famille en attendant d'être capable de travailler. Soutien financier, des solidarités à l'intérieur des tribus. Si on prend l'exemple des femmes ou hommes au foyer, quand un des membres de la famille se dédie à l'éducation ou au travail de reproduction, il y a aussi un transfert du revenu. Donc c'est tout ça pour dire que c'est quelque chose qui s'opère de manière plus ou moins informelle et cachée. L'enjeu politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, est conditionné par son montant. Plus il s'approche du seuil de pauvreté, plus il donne des armes d'émancipation envers l'employeur. Et ou envers, à l'intérieur d'un foyer, si on est une femme au foyer, envers le bon père de famille. Et du coup, c'est un outil d'émancipation, où les enfants, s'ils s'entendent mal avec leur famille, quand ils ont 18 ans, ils ont plus de facilité à revendiquer leur propre existence, à faire leur propre choix, à prendre en charge leur vie. Ils sont beaucoup moins soumis à deux autorités qui sont le patriarcat ou la condition économique, la nécessité de... la peur de crever de faim. Il existe beaucoup de montages économico-financiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour que ce soit plus limpide, mais on pourra en parler après pour ceux que ça intéresse. Donc, les possibles conséquences positives, c'est une émancipation, comme je l'ai dit à l'instant, de l'employeur. Donc, répartir mieux les forces de négociation entre le travailleur et l'employeur. Aujourd'hui, le chômage de 10% crée un gros levier pour les employeurs à créer des conditions de travail ou des directions de travail qui ne correspondent pas aux travailleurs. Il y a une sorte d'obligation d'accepter, et ce qui permettrait une reconquête de sens dans le travail. Donc de choisir ce que l'on veut produire en fonction de ce qu'on aime produire et de ce que l'on veut consommer. Il ne s'agit pas d'entretenir la société telle qu'elle est, de s'y insérer telle qu'elle est, mais d'avoir cette marge de manœuvre, de choisir son travail, de pouvoir l'inventer, de pouvoir prendre du temps pour faire d'autres choses, comme construire sa maison, d'avoir un laps de temps et de moins être directement et quotidiennement pris par les nécessités de l'économie. Ce qui nécessite de réorienter la production. On ne produirait plus du tout de la même manière, puisqu'il y aurait plein de productions qui ne seraient plus légitimées. Annulation de la consommation compensatoire, ça c'est... On consommerait moins compulsivement. Un des gros enjeux de ça, c'est aussi l'autonomie au travail. Un des gros enjeux de Gort, c'est de réduire l'influence de l'hétéronomie au travail. C'est-à-dire des grandes chaînes de production, on ne connaît plus l'influence qu'on a ou la réelle action qu'on a dans toute une chaîne de processus. Il y a beaucoup d'exemples dans ces livres, où par exemple des usines jusqu'à dans les années 80... fonctionnait où quatre ouvriers géraient entièrement la chaîne de montage d'une voiture. C'était des entreprises qui n'étaient pas moins compétitives que des chaînes d'un bout à l'autre où chaque ouvrier avait une place dans la chaîne de production. Elles ont été fermées. On peut se demander si c'est pas uniquement pour des raisons politiques, puisqu'économiquement, elles étaient tout aussi viables. Et c'est aussi... se dire que ce qui crée aujourd'hui la valeur dans une société, si on accepte, si on part du principe qu'on n'a plus besoin de consacrer tout notre temps de travail productif à la genèse de nos besoins directs, nourriture, logement, habits, et ce qui a créé notre richesse, qui a permis de nous rendre indépendants directement, ça a été... du capital social, créatif, autant artistique que technique, les interactions sociales. La libération des désirs, donc c'est aussi le transfert d'activités directement économiques vers d'autres. Ça, je renvoie à la nounou, livreur de pizza. Disons que des activités qui sont aujourd'hui économiques peuvent se situer entre travail autonome ou travail domestique en fonction de l'engagement qu'on y met et qui je sais pas comment c'est dit. Donc l'enjeu est de créer une société responsable d'elle-même, et de donner des moyens techniques pour qu'elle puisse accéder à cette responsabilité. Donc en s'émancipant du travail comme obligation matérielle, l'être humain n'a plus d'obstacle à une prise en main de sa vie existentielle. Donc il y a une accentuation de la responsabilité existentielle, où on ne peut plus dire si seulement j'avais eu plus de temps, j'aurais une vie tout autre. J'ai trouvé ça dans L'envers, l'endroit de Camus, que je trouve assez, assez juste, enfin, assez enrichissant par rapport à ce propos, où il dit « Il n'est plus possible de tricher, de se masquer derrière des heures de bureau et de chantier. Ces heures contre lesquelles nous protestons si fort et qui nous défendent sûrement contre la souffrance d'être seuls. C'est ainsi que j'ai toujours eu envie d'écrire des romans où mes héros diraient « Qu'est-ce que je deviendrais sans mes heures de bureau ?» Ou encore « Ma femme est morte, mais par bonheur j'ai un gros paquet d'expéditions à rédiger pour demain. » Où il y a, ce que je trouve intéressant dans cette citation, c'est qu'il y a une fonction aussi du travail qui est une prise en charge de la vie, d'une grosse partie de la vie active. Ces syndromes de dépression des retraités qui ont travaillé toute leur vie dans un cadre, qui se sont sentis utiles à une entreprise et qui tout d'un coup se retrouvent sans livrer à eux-mêmes, où ils doivent se prendre eux-mêmes en charge. Et c'est, ça permet de proposer ça dès l'enfance, où on est, où on sait qu'on va grandir dans une société où on est nous-mêmes responsables de notre vie. Et c'est un des gros tournants depuis la peur de l'insertion dans le travail, c'est que de plus en plus d'étudiants choisissent leurs études en fonction de comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'insérer dans la société telle qu'elle est, au lieu de se poser la seule question légitime, et quelle société je veux, et qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais développer comme qualité pour aller vers cette société et construire cette société telle qu'elle me plaît. Donc Olivier Siger, qui est un journaliste qui s'intéresse pas mal aux revenus de base, pose un peu des limites et cet enjeu de réforme existentielle en disant le revenu de base implique de se mettre en jeu, de se donner du mal. J'espère bien que les gens auraient mal à la tête, au cœur, au ventre, que tout leur métabolisme serait dérangé, s'ils devaient réfléchir à ce qu'ils ont réellement envie de faire. Comment pourrait-il en être autrement pendant des années? On est allé au turmin sans se poser de questions. Mais moi j'aimerais vraiment voir ça, vraiment avoir une chance de voir ce que cela pourrait donner. Ça me rend très curieux. On est déjà là. Un des autres enjeux, ça c'est un autre versant, c'est la pensée de Castoriadis, où c'est l'enjeu de la démocratie. Où sans cette autonomie existentielle et de donner une direction à la société à travers nos désirs et d'avoir le temps de penser la politique, la démocratie ne peut pas être réelle et effective. Donc il y a cette citation de Marie-Paul Perrin, qui est journaliste aussi. Donc, un citoyen ne peut pas décider librement s'il est exploité dans un processus de production. Pour être membre d'une démocratie, il faut être indépendant. C'est bien pour cela que chez les Grecs, les esclaves ne votaient pas. Dire que la citoyenneté est un temps à prendre et on ne peut pas être citoyen et vivre dans une démocratie s'il n'y a pas un temps consacré à ça. Un temps et une direction, mais à travers tout le reste de la vie. Là, on arrive à la fin. Donc, les artistes, inventeurs, passionnés, libres penseurs revendiquent recherche au nom du désir de s'investir dans le monde depuis leurs propres exigences, et cela malgré les contraintes économiques. Cette démarche nécessite souvent l'avantage d'un héritage culturel, voire économique. Donc c'est de se mettre le point sur le fait que la plupart des gens en école d'art, ou des gens qui choisissent d'avoir une vie autonome et créative, font souvent partie de gens qui ont eu à un moment l'opportunité de se poser la question, c'est-à-dire libérer d'une peur du manque, ou d'un héritage culturel qui leur donne cette confiance pour pouvoir aller au-delà de la pression de l'économie. Donc l'enjeu est donc de réduire ça constitue une forme d'élite, et le revenu de base et toute la pensée de Gortz vise à étendre cet avantage à travers toute la société, l'ensemble des citoyens, et du coup de réduire la pression économique pour donner davantage de place aux activités autonomes, ce qui est considéré ces activités comme principale source de richesse d'une société. C'est ce qu'on a vu, ou ce qui fait la richesse d'une société aujourd'hui, c'est pas qu'on produit beaucoup de blé ou qu'on produit beaucoup de choses nécessaires, mais qu'il y a une culture, des échanges culturels. C'est énormément de choses qui ne sont pas comptabilisées dans l'économie. Et l'enjeu pour moi, et ce pourquoi je voulais faire cette intervention dans ce workshop, c'est que cette prise de responsabilité et de choisir quelle société on veut est la partie la plus intéressante pour moi dans l'art. C'est-à-dire que c'est d'avoir un temps libéré pour penser par quel biais on veut agir dans la société, qu'elle soit plastique, artistique ou simplement, comme dans ce workshop, des échanges de savoir. Et donc du coup, tout l'enjeu d'une émancipation économique est de redonner aux citoyens les moyens de construire une société selon leurs désirs et de les renvoyer à leurs responsabilités. Je crois que j'en ai fini. Faire une pause, vous faire des questions. Ouais, peut-être que j'aurais besoin de. Il y en a énormément. C'est quelque chose qui a plein de moutures. Celle qui m'intéresse, c'est celui qui permet réellement une émancipation, donc c'est revenu inconditionnel, universel et suffisant. Il y a par exemple ça va être compliqué sans support graphique. Il y en a une qui, par exemple, est un montage basé uniquement sur la taxation de la valeur ajoutée, qui est la TVA, où la fiscalité française est relativement inégalitaire parce qu'elle est plein de raboutages de lois, de niches, et ce qui fait que, par exemple, une entreprise du CAC 40 paye en moyenne 8% de charges contre 30% pour un petit entrepreneur, au lieu de 33%, la norme c'est 33%. Donc de simplifier déjà cette fiscalité pour réduire l'avantage, parce qu'une fiscalité très complexe a le défaut de ceux qui ont les moyens, et ceux qui devraient en payer le plus ont les moyens d'y échapper. Donc une de ces solutions est d'annuler tous les impôts et d'augmenter la TVA en disant qu'on va financer l'État et le revenu de base, le fonctionnement de l'État et du revenu de base uniquement par la consommation. Donc la vertu de simplifier et de rendre après il y a le marché noir qui est la principale manière d'y échapper, mais s'il n'y a déjà plus qu'une seule chose à contrôler, c'est nettement plus simple. Donc mettons il y a une TVA à 100%, donc quand tu veux acheter quelque chose qui coûte 10 euros, tu vas y payer 20. Le débat aujourd'hui sur augmenter la TVA, et que ça pénalise le plus les gens qui utilisent leur argent uniquement pour consommer ce dont ils ont réellement besoin. Donc l'idée, par exemple, mais ce qui peut être compensé par le revenu de base, en disant on donne 1 000 euros à tous les citoyens. 1 000 euros.
C'est les citoyens travailleurs ou...
Inconditionnels. Disons, moins de 18 ans, ils vont avoir 500 euros. Parce qu'ils vivent chez leurs parents, C'est les retraités, c'est les chômeurs qui ne cherchent pas de travail. Et donc chaque personne de plus de 18 ans touche 1 000 euros. Chaque citoyen de moins de 18 ans touche 500. Donc ça pénalise, ça contrecarre l'effet d'être pénalisé par une forte taux de TVA, puisque tes 1 000 euros te suffisent à vivre. En même temps, l'État te donne que 500 euros, puisque sur les 1 000 euros qu'il te donne, comme tu vas entièrement les consommer, tu ne vas pas pouvoir les épargner, tu vas les dépenser pour vivre, il ne t'en donne que 500. Donc ça fait un impôt négatif de 500 euros pour les gens qui ne travaillent absolument pas économiquement. Après, ça a l'avantage d'être très progressif. Disons que plus ton salaire s'éloigne du revenu de base, mettons que tu gagnes 20 000 euros par mois, plus tu as un impôt proche de 50%, puisque tu vas toucher 21 000 euros par mois. Si tu les dépenses, tu vas reverser 10 500 euros par mois. Donc tu payes un tout petit peu moins de 50% d'impôt. Donc ça a l'avantage d'être très très progressif. Ça a l'avantage aussi de faciliter, par exemple, mettons une famille de 2 enfants et 2 parents, où il y a une seule personne qui travaille, par rapport à un célibataire. Donc la famille va toucher d'office 3 000 euros, 1 000 euros par parent, 2 000, plus 1 000 euros pour les 2 enfants, 3 000 euros. La personne célibataire va toucher 1 000 euros. Et ce qui peut reconsidérer du coup, on reconsidère le salaire, parce que c'est dans une société où on travaille moins, on répartit plus le travail nécessaire. Le travail est reconsidéré par rapport à la nécessité aussi. Par exemple, avant, un des parents gagnait 2 000 euros par mois. Donc avec 2 000 euros par mois, plus quelques allocations familiales, parce que quand tu as des enfants, tu as quelques aides, qui gagnaient, mais elles sont très, très fines. Une famille de 4 vivait avec 2 200 euros, on va dire. Et un homme seul vivait avec 2 000 euros. Donc il y a aussi, si on veut considérer le travail de reproduction, c'est-à-dire que c'est important d'élever des enfants, c'est important de bien les élever dans des conditions favorables et d'avoir du temps, pas avoir trop d'inégalités ou de pauvreté. Ça permet de rémunérer ce travail invisible, qui est amener les enfants à l'école, faire les devoirs le soir, qui permet aussi de considérer ce travail invisible. Ce qui permet aussi à la personne qui ne travaille pas dans le couple de dire « Attends, moi je suis indépendante de toi. » C'est de décentraliser le pouvoir dans la famille, autant au niveau des enfants que des parents. Parce que la personne qui ne travaille pas a son revenu quoi qu'il arrive. Et elle a du coup, qui est modéré par le salaire en plus, la personne qui travaille va gagner un peu plus que la personne qui ne travaille pas, voire 2 fois plus, voire 3 fois plus. Mais ça rétablit des zones de pouvoir à l'intérieur de la famille, où il n'y a plus de prise de pouvoir. Et une autre, tant pour la femme ou l'homme que les enfants. Et un autre avantage de la taxation par TVA, et qu'aujourd'hui, le système fiscal en France, le salariat est taxé à 50% d'office. Donc quand on veut payer quelqu'un au SMIC, l'employeur doit débourser 2 400 euros, ce qui a des répercussions sur le prix de vente de l'objet. Et ce qui crée une disparité entre les produits qui sont produits sans main-d'œuvre et les produits qui sont produits avec main-d'œuvre. Par exemple, une coupe de coiffeur, c'est 100% de main-d'œuvre. Donc elle est déjà taxée à 100%. Plus la TVA est taxée à plus de 100%. Quand vous payez 20 euros votre coupe de coiffeur, il y a plus de 10 euros qui revient à l'État. Par contre, quand vous achetez une machine à laver, donc processus dont la charge salariale représente à peu près 10%, là, vous avez que une petite partie du produit final qui est taxé. Et ce qui revient à poser la question à qui appartiennent les technologies, la mécanisation, l'ensemble du processus. C'est un impôt qui permet de taxer le travail des machines. C'est-à-dire que le travail des machines qui libère du temps génère des fonds pour l'État pour la redistribution générale.
C'est quoi la motivation pour les travaux de l'État ?
Alors ça, c'est une question qui est assez forte et qui révèle aussi qui révèle la nécessité d'avoir des sociétés qui nécessitent d'avoir des précaires pour exécuter les tâches qu'on ne veut pas produire. On peut accepter ça, on peut se dire, mais on est tous égaux. Pourquoi est-ce que ce serait plus fragile qui irait nettoyer les égouts
ça deviendrait une obligation citoyenne ?
Ça pourrait, ou il peut y avoir, après il pourrait y avoir des... Ça peut être envisagé en disant qu'il n'y a plus des boueurs, mais comme on ne travaille que 4 heures par jour, on va nous-mêmes organiser des collectes collectives dans notre quartier, on va nous-mêmes nettoyer nos rues. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi une rémunération horaire plus avantageuse. Aujourd'hui, ce qui est rémunéré sont les postes de direction, de soutien du système économique tel qu'il fonctionne. On a parlé, les publicitaires, les commerciaux sont plus payés que des ouvriers qui produisent la marchandise. Et ça pourrait être les artistes, par exemple, en disant, écoutez, vous avez, qui nettoie les égouts, vous avez une volonté de libérer votre temps de création, vous bossez deux fois moins, vous êtes payé pareil. La contrepartie, c'est que vous faites un boulot un peu plus pénible.
Tu te rends compte que la solution de société que tu proposes, il va être tout seul artiste.
C'est... C'est, pour moi, c'est l'enjeu. C'est de dire, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, l'enjeu d'être artiste, ça, c'est très personnel. C'est d'avoir la liberté et la conscience de produire ce que je veux produire et de m'insérer là où je veux me situer. Pour ça, je le paye d'un travail économique, mais j'arrive à bien s'en tirer avec des taux horaires, un meilleur taux horaire, en ayant une vie frugale. Mais c'est l'enjeu, pas forcément que tout le monde devienne producteur d'œuvres d'art, mais que tout le monde, à l'image de personnes autonomes, soit maître de sa vie, existentiellement. Mais je pense pas que tout le monde voudra faire des sculptures d'art contemporain je pense que ça remet en question aussi ça peut diffuser. Je pense que l'art contemporain restera une sorte de secteur, mais ça permet à l'ensemble de la population de se poser cette question: qu'est-ce que je veux produire? Est-ce que je veux pas être peintre du dimanche le reste du temps? Est-ce que je veux pas faire autre chose, faire de la politique?
Il y a... Je suis pas sûr de ça. Parce que ce dont il y a eu des questions un peu aussi, et je pense que c'est la période de voir, je ne connais pas trop voir, mais il y a une pensée comme ça qui serait de dire à une époque, dans les années 40, 50, il y avait cette idée que la robotisation allait complètement changer la vie des citoyens, c'est-à-dire il y avait une espèce de grands rêves comme ça où tous les ouvriers n'auraient plus besoin de travailler parce que les machines prendraient notre place et qu'en fait on n'aurait plus qu'à promener le chien, faire du tennis, nager, enfin tu vois, des trucs un peu gays comme ça. Et du coup, je sais pas, enfin aujourd'hui c'est un peu différent, mais je suis pas sûr que par exemple, je sais pas, un travail manuel
n'importe quel travail manuel peut dégager une passion. Je veux dire, la recherche dégage une passion. Je veux dire, la plupart des chercheurs sont passionnés. Et c'est aussi des économies qui sont complètement fonctionnelles, puisque c'est des économies qui, sinon, on fait des paris sur l'avenir, qui ne vont pas forcément produire de l'objet là, maintenant, à l'heure. Ça ne va pas être un verre ou quoi. Mais on va faire un pari que dans l'avenir, au même titre que les chercheurs des années 20 qui bossaient sur la robotisation, on disait oui, quand on aura fini, dans 40 ans, avec cette technologie, tous les ouvriers et tous les hommes sur Terre...
Non, mais d'accord, mais là, tu me donnes des exemples de branches de métiers qui sont dans le secteur économique et qui sont, on va dire, soit agréables à faire, soit qui génèrent de la richesse, mais sur plus long terme. C'est, tu me parles de branches qui sont liées à l'investissement et dans le long terme. Bah, moi, je te parle de choses qui sont super ingrates.
Si le temps de créer...
Il y en a plein. Ça va de collecter les poubelles à produire de la nourriture.
Si on prend l'exemple des agriculteurs.
L'agriculture, c'est super bien vécu par ceux qui l'exercent.
Le problème de l'agriculture, c'est qu'ils sont extrêmement pressurisés, qu'ils ne peuvent pas produire la... Les normes européennes sur l'élevage, et il y a énormément de gens qui militent parce qu'ils aiment leur métier et qui veulent le produire à leur manière. Et les normes européennes qui obligent à baguer ou qui ne peuvent plus faire des reproductions rustiques d'animaux et qui doivent les acheter dans des éleveurs. Il y a énormément de gens qui militent pour continuer à produire de la nourriture parce qu'ils aiment ça et qui ne sont pas du tout dans une démarche uniquement économique. Il y a une véritable passion.